Vous écoutez
RMC.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Bonjour Eric Olegas.
Bonjour Mathieu.
Parlons des fraises.
Mort.
Nous sommes en pleine saison.
Pleine saison.
Alors attendez, parce que je suis ravi que vous veniez confirmer. Bonjour Clara Gabillet.
Bonjour.
Vous savez quand elle mange des fraises ?
Non.
Ah bon, en hiver, en été.
Ah non, voilà. Non. Je pensais que c'était un fruit d'été.
Un fruit d'été. La fraise est un fruit de printemps, Perico.
L'hiver.
Oui, de fin d'hiver.
Et souvent les meilleurs sont à la fin de l'hiver, c'est-à-dire les trois premières semaines de
février.
Voilà, 15 février, 20 mars.
Il faut lui refaire toute l'éducation à cette Clara Gabillet.
Voilà. Mais on peut aussi en manger quand on est enceinte. On peut en manger quand on est enceinte. Et je vérifie que la femme enceinte a besoin de fraises à 2h30 du matin.
Cette envie de fraises, c'est donc pas un mythe.
Voilà, c'est pas un mythe. Ça reste pour autant un produit emblématique. Nous avons tous été enfants. Une bonne fraise, comme tout bon fruit, mais la bonne fraise, c'est un instant de paradis, c'est un instant d'émotion. Vous savez, le nom, la fragrance vient du mot fragaria, qui est le nom latin de la fraise. La fragrance, qui est le seul terme qui associe la saveur et l'arôme, c'est-à-dire le goût et le parfum, une fragrance. Et vous avez des fraises qui sont, à mon avis, l'image un peu d'existence de Dieu ou du paradis pour certaines. J'en ai goûté 2-3 fois dans ma vie. J'avoue qu'on sort bouleversé. Mais on a aussi l'horreur absolue avec la fraise, précisément Mathieu et Clara, parce qu'elle a un succès fou, c'est le fruit emblématique du bonheur, de l'été, de la belle saison, parce qu'il y en a aussi un petit peu l'été, en tout cas c'est le printemps, on se jette dessus, et évidemment le productivisme financier commercial de notre monde a fait qu'on a inventé
Des usines à fraises,
voilà.
En Andalousie, en Espagne.
Alors attention, je défends, il y a eu une polémique entre Ségolène Royal et Pedro Sánchez, le président du Conseil espagnol, sur la tomate et sur la fraise, voilà. Il y a d'excellentes tomates en Espagne et ils en font aussi de très mauvaises. Et j'ai goûté en Espagne, dans des potagers traditionnels, des fraises merveilleuses. Mais enfin, la promesse de Huelva, au sud-ouest de l'Andalousie, à la frontière du Portugal, est un enfer écologique et social où on produit, j'allais dire, l'horreur alimentaire absolue qu'est cette fraise industrielle sur des milliers d'hectares.
Et qu'on retrouve dans nos supermarchés, majoritairement. Mais c'est pour ça, alors Perico, qu'on en parle ce matin.
Tout à fait.
Nous sommes en pleine saison de la fraise, mais la bonne nouvelle, si on peut dire, cette année, c'est que la fraise française retrouve des couleurs. Pourquoi ? Parce que les coûts de production en Espagne ont augmenté.
Alors, d'abord, il y a une sécheresse terrible qui sévit en Espagne. On avait vu que la Catalogne, Barcelone, va utiliser de l'eau de mer parce qu'ils vont manquer d'eau courante. Et le sud-est espagnol et l'Andalousie en particulier sont frappés depuis quelques années par une sécheresse terrible. Ils étaient déjà en carence d'eau en situation naturelle. Du coup, il y a des forages un peu sauvages que le gouvernement espagnol punit. Il y a un parc qui est un petit peu le parc du Mercantour espagnol qui s'appelle La Doñana, où il y a tous les oiseaux qui viennent se reposer pendant les migrations. Il n'y a plus d'eau et les producteurs de fraises, vous vous rendez compte qu'il faut 300 litres d'eau pour 1 kilo de fraises.
300 litres pour 1 kilo.
Ouais.
Donc on comprend aussi.
Vous voyez, donc la production, donc c'est un puits sans fond et en plus une pollution parce qu'on utilise des fongicides, des pesticides, des herbicides, l'éthyrimol qui est un véritable poison et le ciflumétophène qui sont utilisés à grande dose. La législation espagnole
Arrêtez,
existe.
Parce que là, le dessert préféré en ce moment là, c'est la boîte de fraises au supermarché. Ça contient tout ça, plus la chantilly qui contient pas non plus.
Alors je vais utiliser ma formule préférée.
Vous allez nous dégoûter là.
Non, c'est 10 minutes de vie en moins.
Ah bon.
Voilà.
Un plat de fraises en ce moment.
C'est une caricature que je vous dis, mais
si voilà, on achète celle-là.
Alors il y a des gens qui sont dans l'addiction de la fraise, qui pour des raisons bien entendu les revenus modestes, et c'est ça qui me révolte. La malbouffe c'est toujours pour les pauvres. Ces gens-là se jettent sur ces barquettes de fruits mises en grande promotion commerciale par les grandes surfaces à des prix terrifiants de 99, enfin des choses terrifiantes. Et lorsque l'on analyse ces fraises-là, c'est un petit peu de mort que l'on vend. C'est vraiment c'est du poison que l'on voit à ces gens et surtout les enfants qui adorent ça. Elles sont dures, elles sont pas de goût. Elles sont moites, voilà, par rapport à nos bonnes fraises françaises. Donc,
alors,
vraiment, abstraction totale de fraises espagnoles. Alors, à cause de la sécheresse, les coûts de production, le transport, elles ont augmenté de prix. Et du coup, elles talonnent à quelques centimes près. Hein. Alors, elles sont passées de 3, 4, 5, on est à 12, 14, 15 euros. Les premières bonnes fraises françaises sont à 12, 14, 15. Eh bien, si on peut faire le choix...
Cette année, prenez de la française.
Je ne dis pas que toute la française est exemplaire, mais on a encore... aujourd'hui des horticulteurs, surtout dans la vallée du Rhône, en Provence, dans le Lot-et-Garonne, dans le Sud-Ouest, avec des fraises exceptionnelles, que ce soit du côté d'Agen ou de Carpentras. Alors, la fraise de Carpentras est un des fleurons du patrimoine horticole français. On va en parler. Et là, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Même si c'est deux fois dans l'année, goûtez au moins à cette fraise.
Alors, quelle fraise choisir ?
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
Allons tout près de Carpentras dans le Vaucluse, Péricot, Pernes-les-Fontaines, chez Monsieur Thibaut Pic. Bonjour.
Bonjour.
Producteur de fraises, fils de producteur, neveu de producteur. Vous êtes aussi grossiste dans le très haut de gamme. Vous fournissez les Palaces, le Ritz, le Georges V. Péricot, avant de commencer l'émission, là, me disait pendant la pub, c'est simple, sa fraise, c'est la meilleure du monde.
Je raconte rapidement l'anecdote. Le papa de Thibaut Pic, Raïm et Pic, ce sont des gens catalans d'origine qui sont venus autrefois, et son tonton Élie, qui continue l'activité, qui va l'arrêter l'année prochaine, et son papa me dépose un jour à mon bureau, à Marianne, une petite barquette de fraises. Il m'avait vu à la télévision, je vois cette petite barquette de fraises sur mon bureau, je ne la goûte pas le soir même, je reviens le lendemain matin, je l'avais laissée sur mon bureau, et nous étions deux ou trois collègues en train de discuter, je prends la fraise, je la goûte, la discussion était passionnée, on la met à la bouche, on s'est tu. On était tellement bouleversés par le bonheur de cette fraise, mais j'ai été transcendé.
Et pour faire taire Péricot,
transcendé, et j'en avais presque les larmes aux yeux, j'en goûte une deuxième, le bonheur absolu, la fraise magique, avec ce côté rosacé, cet arôme, ce parfum, mais on mordait dans le paradis. Évidemment, il y avait la carte de visite, j'appelle tout de suite le papa, monsieur Raïm Epic, le papa de Thibaut, il s'avère qu'il était à 2 kilomètres de l'endroit où j'allais en vacances, à côté de Carpentras, et on a créé, je le dis, une très belle amitié, et j'ai vécu un paradis fraisier, grâce à la famille Pic, les primeurs des fontaines à Pernes-les-Fontaines. Pour moi, c'était un pèlerinage annuel avec mes enfants, avec des amis. J'en ramenais à Paris et je raconte l'anecdote. J'en fais un jour goûter à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui discutait avec le PDG de Nestlé. Vous voyez, c'est un déjeuner passionné. Je mets la barquette de fraises. Ils étaient en train de s'engueuler. Ils goûtent une fraise. Tout le monde se tait.
Et ben voilà.
L'amour, l'amitié. Et on a parlé de fraises jusqu'à la fin du repas.
Voilà l'anecdote. Incroyable les effets que vous produisez avec vos fraises, dont la particularité est qu'elles sont pleine terre, et ça c'est de plus en plus rare.
Oui, je pense que c'est plus de 95% de la production de fraises qui est en hors-sol, peut-être même plus.
Tout de même, plus seulement 5% sont en pleine terre.
Mais si vous saviez le boulot que c'est,
qu'est-ce que ça change d'ailleurs de les faire pleine terre, Thibaut Pic ?
Dans le sol, vous avez plus de 38 éléments qui sont captés par les racines, qui viennent rajouter de la complexité du terroir dans la saveur. Forcément, en sol, tout est planifié d'avance. C'est des sacs qui sont achetés et qui sont normalisés. Vous n'avez pas plus de 6, 7, 8 éléments. Et voilà, plus après l'effet du sol, l'effet des bestioles qui viennent aussi aérer le sol, le travailler, tout ça. Ça, c'est quelque chose.
Et donc, il y a plus de risques pour votre production, peut-être. C'est plus pénible à ramasser, ce qui explique que c'est un peu plus cher.
Ah oui, on est coupé en deux, hein, on est courbé en deux toute la journée, on est au sol, hein, donc voilà, hein, pour les dos, pour les reins, c'est assez compliqué. Alors qu'au sol, on travaille debout, donc on travaille beaucoup plus vite. C'est aussi, on est moins gêné par les poussières et tout ça, donc on a des meilleures cadences et forcément, la rentabilité est meilleure. Mais le goût n'est pas aussi puissant qu'en pleine terre.
Évidemment.
Après, pour moi, le plus important, c'est surtout de la ramasser mûre. On peut avoir des très bonnes fraises de hors sol. Dans le cas où c'est des bonnes variétés, dans des bonnes régions, et aller ramasser mieux.
C'est un peu le problème qu'on voit même dans les étals des marchés, hein, des maraîchers, des queues de fraises, enfin des culs de fraises blancs.
Oui. Eh oui. Si c'est blanc, ça veut dire que ça a été ramassé blanc. Non. C'est pas que le blanc qui est pas bon, c'est que la fraise entière a été ramassée blanche avec quelques taches de rouge. Et par la chimie naturelle, elle va rougir une fois qu'elle a été ramassée, mais la partie blanche proche du vert ne va jamais tourner rouge. Mais ça veut dire que toute la fraise était blanche au moment où elle a été cueillie.
Bien sûr.
Voilà. Donc voilà. Une bonne fraise, non seulement c'est rouge à plein, ça doit sentir bon, oui, et de loin.
Et cueillie au bon moment, avec une main humaine, j'allais dire plan par plan, et je vois la famille Pic et quand je vais les voir avec ses employés qui sont là et les patrons aussi. Et je l'ai fait une fois. Un jour, le Élie, l'oncle de Thibaut, me dit « Tiens, va ramasser quelques fraises pour te faire plaisir et fais-toi une petite barquette. » Je suis sorti éreinté. Je lui ai dit « Je ne regarderai plus jamais le prix de cette fraise, vu la souffrance que ça suppose. Merci de vous donner autant de mal pour nous faire autant de bien. »
Quelle variété chez vous, Thibaut Pic ? Parce qu'on a la gariguette, la sifflorette, la charlotte, la mariguette, la ronde, la clairie.
La Adélie.
Alors non, on a trois. On a la Cléry, la Dream et la Sifflorette. Pour moi, la Cléry, c'est l'entrée de gamme. Mmh. Et voilà, en pleine terre et ramassée.
Un peu massive, un peu grosse.
J'ai aucun problème avec cette fraise. Voilà, un peu grosse. Après, il y a la Dream. Là, on rentre déjà dans de la variété haut de gamme, qui est plus rouge, qui est très aromatique, qui est voilà très sucrée, etc. Mais ensuite, pour nous, pour moi, le meilleur, c'est la Sifflorette, parce qu'en plus d'avoir ces mêmes qualités, elle a un parfum qui touche presque à l'exotisme, j'ai envie de dire.
Absolument, absolument. Tropical,
en plus du goût de la fraise. Voilà,
pour retenir, Sifflorette est le plus local possible.
C'est le Saint-Sacrement. Hein, je crois que c'est une cousine, une évolution de la Garriguette, là, la Sifflorette. Elle est un petit peu oblongue. Hein, et quand on croque dedans, si elle est un tout petit peu chaude, vous voyez, et vous avez des arômes, que ce qu'a dit Thibault, c'est le goyave, le litchi, des parfums, la rose. C'est exceptionnel, le panel olfactif et aromatique qui se dégage d'une petite boule rouge comme ça, sortie de la terre de Provence.
Je voudrais juste qu'on termine, parce que j'ai appris quelque chose, et on aime ça dans le beurre et l'argent du beurre, ne rien gaspiller. Clara Gabillet, les queues de fraises, le verre, on peut aussi s'en servir.
Oui, on peut en faire d'une boisson en la faisant infuser pendant une heure dans une carafe d'eau, ce qui donne le goût de fraise. On peut agrémenter avec de l'amande, du citron. On peut aussi en faire un sirop avec le pédoncule des fraises, de l'eau et du sirop. On fait bouillir le tout, puis on fait réduire. Ensuite, on filtre avec une passoire, et cela donne donc un sirop maison de fraises. Et si vous ne voulez pas les manger, c'est aussi utile pour les plantes, pour enrichir son compost. Ça peut aussi aider au démarrage des semis en mixant ces pédoncules avec de l'eau. On fait une petite mixture qui aide ensuite à faire pousser les graines. Et puis aussi, on peut aussi faire infuser, hein, c'est, comme je le disais, ces pédoncules, pas forcément que pour les boire, mais aussi pour en faire un parfum d'ambiance chez soi. Et puis j'ai aussi lu que si on les faisait sécher et qu'on les glissait dans notre portefeuille, ça peut porter chance. Et si on met cette petite feuille séchée dans notre poche, là, ça permettrait de trouver l'amour.
Ah.
On y croit ou pas ?
Vous avez des feuilles de fraises dans la poche ?
Toujours sur moi, mais en général, c'est que je les ai mangées.
Bon. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, hein, Thibaut Pic, d'avoir pris ces quelques minutes sur RMC. Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, producteur et fournisseur des palaces parisiens, les meilleures fraises du monde, selon Perricolet.
Voilà, et chez Grand Frais, quelquefois, on les trouve en direct.
Exactement.